Nous sommes en direct depuis le château des Ravatis à Saint-Lagé dans le cadre des instants T tourisme organisé par Rhône Tourisme. C'est un événement à destination des acteurs du tourisme et qui se tient chaque année, qui est organisé donc par une organisation du département du Rhône, Rhône Tourisme. Et dans ce cadre, nous allons accueillir sur cette émission d'une heure des intervenantes et intervenants de cette journée qui viennent apporter un savoir-faire, une expertise aux acteurs du tourisme local. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mylène Lavial, qui est directrice de ML Consulting et qui va nous parler de bien-être au travail. Bonjour.
Bonjour.
J'accueille aussi Stéphanie Iguna, gérante de l'agence Food Factory. Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous approcher un peu.
Bonjour.
Et enfin, Pierre Naudin, qui est membre de l'association Unisoap. Bonjour.
Bonjour.
Alors, soap, c'est, comme mon anglais, il n'est pas très sûr, c'est pas la soupe, hein, c'est les savons.
C'est le savon, tout à fait.
Je préfère préciser. Si vous voulez bien, on va commencer par parler bien-être. Il est 14h, on est sur Calade, peut-être que certaines et certains sortent tout juste du repas. C'est un moment qui est plutôt agréable d'habitude, mais c'est le moment où on retourne travailler et parfois l'environnement du travail, il n'est pas toujours un environnement bienveillant ou un environnement en tout cas dans lequel on peut s'épanouir dans des choses agréables. Et pourtant, le bien-être au travail, ça apporte beaucoup de choses et pas que à ceux qui travaillent.
Exactement.
Mylène Lavial.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le bien-être au travail, c'est fondamental. C'est prendre soin en fait, du bien-être, de la santé physique et mentale, en fait. Et le mettre en place en entreprise, c'est travailler sur plusieurs piliers. Et notamment, je pense qu'il est important de parler des conditions de management participatif, de parler de sens. La quête de sens, justement, au travail. Et de parler aussi de ces énergies positives qu'on peut mobiliser au service de la mise en place du bien-être au travail en entreprise. En tout cas, c'est possible et je pense que le premier petit pas est le bon pas, en fait.
Aujourd'hui, le terme management ne s'accompagne pas forcément de représentation de signifiant positif. On passe... D'un rapport professionnel qui était très marqué par l'autorité, il y avait le chef, on passe... Et puis maintenant, il y a le management qui est venu, un mot déjà américain, enfin en anglais, et qui finalement s'accompagne de représentations qui disent que c'est pas forcément perçu comme une bonne chose dans le monde du travail, en tout cas par les salariés. Et comment le management peut être quelque chose à un moment qui amène du bien-être?
Alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les managers. Et puis après, on est tous un peu les managers de notre vie aussi. Hein. C'est un état d'esprit au-delà du mot de management. C'est la personne qui va faciliter, accompagner des équipes à arriver à un projet. Finalement, je pense qu'on peut aussi faire des parallèles qui sont dans la famille. Hein. On est aussi un peu des managers parfois dans nos familles. Donc finalement, c'est plutôt cette capacité à accompagner et à faire grandir des équipes au service d'objectifs. Alors, effectivement, il y a plusieurs types de management. On a pu avoir des managements un peu directifs. Aujourd'hui, les choses évoluent. Puis, il y a des personnes qui sont devenues managers aussi, qui n'ont pas forcément été accompagnées, formées. Moi, je crois que, en tout cas, j'ai confiance dans la possibilité de chacun de construire un management plus participatif, collaboratif, c'est-à-dire qui permettent de dire, bah voilà, on échange ensemble et on décide ensemble, en fait. C'est ça, aujourd'hui, qu'attendent aussi les jeunes générations. C'est comment je développe une posture qui va être accompagnante et qui va être, bah tiens, on a envie de faire ça, comment est-ce qu'on peut le faire ensemble et qui va permettre de développer la confiance, la motivation, l'autonomie, la responsabilisation.
Quels sont les outils que vous proposez alors dans votre entreprise ML Consulting?
Alors, le premier outil quand on arrive, parce que chaque entreprise est différente, chaque équipe est différente, chaque projet est différent, la première étape, c'est quand même de regarder ce qui est fait, parce que souvent, il y a des choses qui sont faites. Et les répéter, ça devient aussi important de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, au-delà de ça, moi, la première chose quand même, quand j'accompagne dans ces démarches-là et dans ces processus, c'est d'aller déjà vers le sens aussi, hein, de regarder bah, quelles sont nos valeurs, quelle est notre vision, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi est-ce qu'on existe. Parce que c'est important pour les collaborateurs aussi d'avoir un sentiment d'utilité, en fait, de savoir à quoi ils participent tous les jours.
Là, vous allez proposer une conférence.
Oui.
Alors, j'imagine que sur une conférence, on n'a pas le temps de donner toutes les clés.
Oui.
Qu'est-ce qui va être le plus essentiel à transmettre? S'il y avait, je ne sais pas, trois grandes clés que vous pourriez transmettre là. Alors, votre conférence, elle dure une heure. Là, on a quelques minutes. Mais s'il y avait vraiment trois grandes clés aussi qui vous semblent essentielles ou indispensables pour être dans la bienveillance et installer du bien-être au travail.
Effectivement, c'est un sujet vaste. C'est pour ça que je dis qu'il est important de prendre la première marche et d'y aller, en tout cas, et de se faire accompagner ou en tout cas de chercher des informations. Et les trois clés que je donnerai, la première clé pour moi, c'est vraiment donner du sens. Aller vers justement cette notion de valeur, de vision, d'objectif. La deuxième clé, c'est le management participatif et collaboratif. Il existe des processus, il existe des outils qui peuvent être mis en place, donc management participatif et collaboratif. Et puis la troisième clé pour moi, c'est les énergies positives qui vont être nécessaires à la conduite de ce projet, surtout dans ce monde en transformation et avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau écologique, humain. Donc voilà, développer son tempérament de l'optimisme, qui va être utile et nécessaire et qui nous permet du coup d'avoir confiance en l'avenir et d'aller vers ces projets de manière constructive et enthousiaste avec toute l'entreprise et tous les collaborateurs.
Toujours avancer en confiance.
Exactement.
Maintenant, on va s'intéresser à Food Factory, qui est l'entreprise de Stéphanie Iguna, qui est basée donc à Lyon,
oui,
à la Croix-Rousse, vous m'avez précisé tout à l'heure.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que vous proposez avec Food Factory ?
Donc la Food Factory...
Aujourd'hui, vous proposez un atelier.
Oui, aujourd'hui, on propose un atelier sur la photographie culinaire. Et au niveau de l'agence, on fait à la fois de la photographie culinaire, donc création de recettes, photos et vidéos, mais également de l'innovation pour des grands groupes agroalimentaires.
Alors, à l'heure où tout le monde photographie son assiette dès qu'il est hors de la maison, voire dans la maison, tout le monde témoigne de l'avancée d'une recette pour un simple marbré au chocolat, je ne sais pas. C'est mettre en avant la photographie culinaire, c'est ambitieux, j'allais dire. Et qu'est-ce qui démarque, une approche professionnelle de la photographie culinaire de toutes ces images dont on est inondé sur les réseaux sociaux de photographie culinaire amateur, on va dire ça comme ça. De cuisinier amateur, d'ailleurs, aussi.
Alors, c'est vrai que quand on essaie de faire de la photographie plutôt en professionnel, on essaie de raconter une histoire gourmande. Donc, il y a quand même un travail en amont, une réflexion pour essayer de scénariser nos plats. Enfin, souvent, ce sont des briefs de marque aussi qui nous demandent de retranscrire des valeurs de marque. Donc, il y a tout un travail en amont pour essayer de bien s'imprégner des valeurs de cette marque ou de l'univers de la recette, essayer de la retranscrire visuellement via des travaux de fond, de texture, de couleur, etc.
Est-ce que dans la photographie culinaire, on retrouve finalement les mêmes dynamiques qu'on retrouve un peu dans la mode ? Est-ce qu'il y a des tendances ? Est-ce qu'il y a des modes aussi saisonnières, des modes annuels en termes de cuisine ?
Oui, en termes de cuisine, on est obligé, nous, de suivre un peu les tendances culinaires. Et là, il y a des réseaux qui se démarquent, comme TikTok notamment, où on va vraiment vers des recettes fast good, etc., avec de la consommation un peu plus rapide que ce qu'on pouvait faire sur Instagram. Et nous, on est obligé de suivre toutes ces tendances-là et de s'inspirer au quotidien en regardant ce qui émerge. Et c'est vrai que ça évolue assez rapidement. Les jeunes sont très dynamiques à ce niveau-là et ça bouge très vite.
Oui, il y a un grand développement de la street food aussi.
Oui. La street food se développe beaucoup suite au Covid notamment, où même les grands restaurateurs ont dû se mettre à la livraison des plats à domicile, etc. Donc on voit une vraie émergence de la street food.
Et aujourd'hui, dans l'atelier que vous proposez ici dans le cadre des Instants Tourisme, qu'est-ce que vous allez aborder avec les participantes et les participants à l'atelier ?
Alors, il y a toute une partie technique sur comment raconter une histoire gourmande via ces photos culinaires, avec des règles techniques sur les angles de prise de vue, la composition, comment choisir son stylisme, comment choisir ses fonds, le matériel nécessaire. Donc ça, c'est tout le premier volet de la formation. Et ensuite, on essaie de faire quelque chose d'assez ludique avec un petit atelier participatif pour montrer qu'en fait, on peut faire des scénographies avec trois fois rien et de façon assez rapide, parce qu'on peut croire que c'est très compliqué quand on voit les scénographies, mais en fait, quand on a les bons réflexes, ça peut devenir assez facile.
Alors, dans ce que vous proposez, on est d'accord, c'est avec de vrais aliments, parce qu'on voit souvent maintenant des vidéos de comment les publicitaires peuvent créer de fausses recettes avec des matériaux qui ne sont pas du tout comestibles, mais pour donner envie. Là, vous parlez bien, vous, de photographie culinaire à base de vraies recettes de cuisine, à base de vraies assiettes, j'ai envie de dire.
En fait, c'est la nouvelle tendance aussi des photographes culinaires. Nous, à l'atelier, on est trois, dont une personne qui était mon élève à l'Institut Paul Bocuse et qui est chef. Et tout ce qu'on cuisine, en fait, on écrit des recettes pour des marques. Et ensuite, on veut que les consommateurs puissent réellement refaire cette recette. Donc, elles sont toutes testées. Et il n'y a jamais de mousse à raser, de chicorée. Enfin, je ne sais pas tout ce qu'on a pu entendre sur comment faire rôtir un poulet sans le faire rôtir. Mais non, ce n'est pas vrai. Nous, ce sont des vraies recettes. Et on mange tout ce que l'on fait pour pas qu'il y ait de déchets.
Ah, c'est important de le dire.
Oui.
Parce qu'effectivement, alors ça va faire une belle transition sur le recyclage avec notre invité suivant, puisqu'il est question de recyclage avec vous, Pierre Naudin.
Tout à fait, ouais. Donc moi, je travaille pour l'association Unisop, qui est la première association française qui a pour mission de collecter et recycler les savons usagés des hôtels pour donner accès à l'hygiène aux plus démunis.
C'est vrai que dans les hôtels, souvent, il y a la petite savonnette qu'on peut utiliser, mais parfois on se lave une ou deux fois les mains avec, parfois on se lave une fois le corps, et après c'est rare qu'on aille jusqu'au bout de sa savonnette à l'hôtel.
C'est effectivement assez rare, alors on trouve quand même quelques clients plein de bon sens qui ont la présence d'esprit de garder la savonnette et de repartir avec, effectivement du coup ça évite le gaspillage, mais sinon dans la majorité des cas, malheureusement et avant l'existence d'Unisop, ces savonnettes partaient toutes à la poubelle, ouais, effectivement.
Parce que concrètement, une savonnette, ça se recycle dans le sens où ça peut redonner une nouvelle savonnette.
Exactement. Du coup, nous, l'idée, c'est de récupérer tous ces savons usagés. On les achemine en fait jusqu'à notre centre de recyclage qui est situé en région lyonnaise. Et une fois réceptionnés, il y a tout un process de recyclage qui a été pensé de A à Z et adapté à des personnes en situation de handicap, puisque le centre de recyclage est situé au sein d'un ESAT, et qui permet effectivement de recycler ce savon et de le redistribuer tout en respectant la réglementation cosmétique en vigueur.
Mmh. Donc vous partez dans votre association à partir vraiment de savons usagés. Ils sont retraités, recyclés, on fabrique de nouveaux savons avec, qui eux, après, vont devenir quoi ?
Alors, les nouveaux savons sont ni plus ni moins que quasiment les mêmes.
Ils retournent à l'hôtel ?
Ils ne retournent pas à l'hôtel, mais pour le coup, on se sert de cette matière première qui ne change pas réellement de composition ni rien. On est sur la même base de savon, il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Mais par contre, effectivement, l'usage auquel ils sont destinés est bien différent puisqu'ils sont distribués via un réseau d'associations avec lesquelles on travaille, des associations caritatives comme les Restos du Cœur, l'Armée du Salut, le Secours Populaire et bien d'autres, et qui redonnent ces savons à des personnes en situation de précarité, puisqu'on estime qu'en France, il y a à peu près 3 millions de personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits d'hygiène de base.
Ce qui est quand même un peu énorme.
C'est assez impressionnant, effectivement, oui.
Et comment au départ est venue cette idée de se dire on va récupérer des savons ? Alors on sait qu'il y a plein d'idées comme ça, de récupérer des choses qui sont normalement jetées, les restes de pain pour fabriquer de la bière, enfin il y a tout plein d'idées comme ça, mais comment vient l'idée de récupérer des savons dans les hôtels ? Au début, comme ça fait penser presque à une niche un peu quand même.
Mais c'est un peu une activité de niche, hein, on est bien d'accord, mais l'idée, elle est venue de Pauline Grumel, qui est en fait la fondatrice de l'association, qui avait l'habitude d'aller à l'hôtel. Elle travaillait dans la communication avant et du coup se déplaçait de temps en temps. Et au fur et à mesure, on est tous déjà allés au moins une fois à l'hôtel dans sa vie. On s'est tous, ou presque en tout cas, déjà lavé les mains avec une savonnette. Et au bout d'un moment, elle s'est posé cette question. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent ? Et elle s'est renseignée, elle a posé la question aux responsables de l'hôtel en disant « Mais vous en faites quelque chose de ces savons ? Est-ce qu'il y a une revalorisation possible, etc. ?» Et toutes les personnes à qui elle a posé cette question ont eu la même réponse. Malheureusement, non. En fait, elles partent à la poubelle. Et donc, à force de creuser, en se renseignant, elle a vu que c'était possible, puisque c'est quelque chose qui existait déjà, en fait, pas forcément en France, mais qui existait notamment aux États-Unis. Et elle s'est dit, mais ça n'existe pas en France. C'est tellement dommage. J'ai envie de mener ce projet. J'ai envie d'avoir, de donner du sens et de trouver une seconde vie à ces savons, de transformer ces déchets en ressources pour en plus agir pour le bien commun puisqu'ils sont donnés à des personnes en situation de besoin, en situation de précarité.
Là, Mylène Lavial, le sens, il nous saute aux yeux. La question, quand on travaille sur un projet comme ça, on n'a pas vraiment, peut-être même pas besoin de se poser la question du sens.
Ah bah là, on est tout à fait effectivement dans quelque chose qui est très aligné puisque finalement, Il y a un partage de valeurs, il y a du sens, il y a une vision au service en plus du collectif en redonnant ses savons à des personnes. Donc oui, c'est aussi peut-être pour ça que on ressent beaucoup d'enthousiasme quand tu en parles. Et tu vois, là, je t'écoutais parler, je me disais waouh, il est vraiment hyper enthousiaste. On sent que voilà, c'est quelque chose qui te porte aussi dans le projet. Et je trouve que le sentiment de fierté et le sentiment d'appartenance, ça fait partie vraiment aussi du bien-être au travail. Et c'est chouette de le voir pour de vrai.
Et j'avais envie de vous demander, alors je vais pas vous demander de parler de savon, Stéphanie Gonin, on pourrait en parler, photographie de savon, je sais pas. Non, c'est par rapport à votre parcours, vous êtes passé, vous avez travaillé dans des entreprises et puis maintenant vous avez monté une entreprise. La question du sens, la question de l'optimisme, comment vous, ça vous traverse dans cette activité professionnelle que vous avez?
Alors moi, je place la bienveillance au cœur de mon activité, parce que moi, je suis une hypersensible, donc pour moi, c'est ultra important. J'ai eu la chance d'avoir eu un ancien directeur marketing qui m'avait formé en ProcessCom. Ouais. Donc c'est une méthode voilà, qui m'aide à vraiment essayer de... J'ai tendance à essayer de me suradapter même au comportement des gens qui travaillent avec moi. Mais pour moi, c'est très, très important que tout le monde se lève en ayant envie de travailler ensemble et qu'on soit dans le respect, la bienveillance. C'est des valeurs qui me sont chères.
Et donc, la question du sens, j'imagine, c'est une question que vous êtes posée aussi. Et qui...
Moi, je trouve du sens dans le sens où j'essaye de faire en sorte que les gens aient envie de cuisiner au lieu d'acheter des produits tout préparés. Donc, j'ai envie de donner envie aux gens en leur montrant que ce n'est pas si compliqué d'acheter des produits bruts et de pouvoir les transformer rapidement le soir chez soi. Donc, c'est vraiment d'essayer d'inspirer les mamans, les gens pressés, etc. en leur disant « vous pouvez cuisiner ».
Et les papas aussi.
Et les papas. Vous pouvez cuisiner, ce n'est pas compliqué.
Bien, en tout cas, merci à vous trois, Mylène Lavial, Stéphanie Gounin et Pierre Naudin. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes venus parce que vous intervenez soit sur des conférences, soit sur des ateliers pour ces instants T tourisme ici au château des Ravadis. On vous souhaite de bons ateliers, de bonnes conférences.
Merci beaucoup.
Allez, nous, on part faire un petit tour en musique avec Trio Mamselbulle.
Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle, comme un funambule qui rêverait de s'envoler. À l'envol d'un ballon, Bulle s'est accrochée. Championne de l'aviation,
Bulle commence à s'élever.
Au-dessus des arbres, un alpiniste anglais lui indique le haut de la montagne.
Mademoiselle n'est pas rassurée.
Elle se demande où le ballon se dirige.
Mademoiselle, tout en haut, avez-vous le vertige?
Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle,
qui rêverait de s'envoler.
Balayé par un vol d'hélicoptère,
c'est fou le nombre d'habitants qu'on peut croiser en l'air.
Guidé par les planeurs, le bourdon d'un ULM qui tire derrière lui un drapeau avec écrit
je t'aime.
Dire bonjour aux avions, croiser des hôtesses de l'air.
Bonjour.
Des colombes, des pigeons battant des ailes à l'envers.
Mamselle Bulle traverse les nuages, enfile un pull, il fait froid au-dessus des orages.
Mamselle Bulle, comme un ver luisant qui rêverait d'un feu follet.
Mamselle Bulle tourne la tête en arrière, elle aperçoit un point qui ressemble à la terre.
Faut faire vite, une bulle ça peut éclater.
Elle croise Spoutnik, le satellite qui lui a tout expliqué.
Mamselle Bulle n'est pas très noctambule, n'a pas prévu dans son pactage qu'il ferait noir dans les nuages.
Mamselle Bulle, comme un papillon de nuit vers l'étoile qui l'éblouit.
Au ciel étoilé, Bulle s'est accrochée. Et c'est dans la Voie lactée que Mamselle décida d'habiter.
Ainsi dans le ciel, depuis des millions d'années,
Madame la Terre observe cette bulle illuminée.
Chaque soir, quand la nuit vient à tomber,
Mamselle Bulle surnouveille jusqu'à ce que le soleil l'interpelle.
Mamselle Bulle.
Oh la lune, hé, hey, la lune, c'est le soleil qui te parle.
Oh, Mamselle Bulle.
Elle est sur la place, faut que je lève le jour.
Comme un funambule qui rêverait de s'envoler.
Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal.
Mamselle Bulle,
qu'est-ce que tu fais?
Comme un funambule qui rêverait de s'envoler.
Cargole.
Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal.
Mamselle Bulle,
comme un funambule qui rêverait de s'envoler.
Mamselle Bulle.
Vous êtes toujours à l'écoute de Calade et nous sommes toujours en direct depuis le château des Ravatis à Saint-Lagé pour les instants T du tourisme organisé par Rhône Tourisme. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau que nous avons installé, vous le savez, dans la magnifique bibliothèque du château, Gaëtan Lièvre, maire de Ville-sur-Jarnieu, mais aussi vice-président au tourisme de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Bonjour.
Bonjour.
J'accueille aussi Nelly Noailly, qui est directrice développement de Destination Beaujolais. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Camille Lernoux, responsable du tourisme durable à Rhône Tourisme.
Bonjour.
Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, si vous êtes d'accord, Gaëtan Lièvre. Donc, je rappelle, vous êtes maire de Ville-sur-Jarnieu. On va commencer par partir peut-être du micro, puis on va rouvrir un peu. Ville-sur-Jarnieu, en tant que maire, la question du tourisme, forcément, elle traverse à un moment l'esprit, elle traverse les décisions, elle traverse des choix. Comment on intègre le tourisme dans une politique communale ?
Eh bien, aujourd'hui, on est sur des secteurs ruraux avec une désertification qui s'est propulsée à partir des années 70. Et aujourd'hui, on a de nouveau un pôle qui attire les gens, mais c'est surtout pour un mode, on va dire, qu'on va appeler dortoir, avec des mouvements pendulaires pour rejoindre les villes. Et il est important aujourd'hui que nous, les élus dans ces secteurs, on puisse ramener une attractivité. Pour pouvoir refaire découvrir ces territoires et surtout pouvoir refaire vivre une économie parallèle. Donc ça va de la chambre d'hôte au restaurant, au bar de village et aussi de faire découvrir tout notre secteur du Beaujolais qui a de nombreux atouts. Et ça passe pas également par le vignoble.
On le disait sur un autre plateau tout à l'heure, Ville-sur-Jarnieu fait partie des communes qui, déjà juste par la couleur de ces pierres, a un attrait pour les visiteurs et les visiteuses qui se rendent sur notre territoire.
Tout à fait, tout à fait. Alors sans refaire toute la géologie du globe terrestre, c'est vrai qu'on a cette roche qui est colorée par les oxydes de fer qui lui confère donc cette couleur, on va la dire magique dans le Beaujolais, qui se marie très bien avec le vert de nos paysages. Et du coup, à chaque fois qu'on se trouve sur un mont, sur une colline ou au milieu d'une vigne, à chaque saison, on découvre un nouveau paysage. J'irais même à chaque jour, un nouveau paysage en fonction de la météo.
Alors, on va quitter avec vous Ville-sur-Jarnieu, et puis vous allez mettre votre deuxième casquette, si j'ose dire, celle de vice-président au tourisme, cette fois-ci de la communauté d'agglomération. Et donc, à l'échelle d'une communauté d'agglomération qui est quand même vaste, comment on gère la question du tourisme et comment, d'un point de vue politique, eh bien, on prend des orientations, on choisit de poser des décisions, et puis comment on engage aussi à un moment un budget sur ces questions-là ?
Alors, en ce qui concerne donc la communauté d'agglomération, il faut savoir qu'elle travaille donc avec Destination Beaujolais. C'est le regroupement donc de trois EPCI, hein, la communauté de communes de Belleville, la communauté donc d'agglomération de Villefranche et au sud la communauté de communes des Pierres Dorées, avec également la commune de l'Arbrel qui est indépendante. Et du coup, il s'agit d'articuler tous ensemble un projet de territoire pour pouvoir attirer aussi bien par rapport au géoparc, parce qu'il faut quand même savoir qu'on est sur les à peu près 200 géoparcs dans le monde, l'unique géoparc vraiment viticole, le plus gros du moins. et d'articuler également un attrait touristique sur l'œnologie, parce que c'est quand même le cœur de notre territoire, mmh. et également de faire découvrir tout le patrimoine que les anciens nous ont laissé et que les associations aujourd'hui œuvrent à rénover et à maintenir en état.
Et on pourrait, à titre d'exemple, prendre par exemple la voie du Taco. Alors, je m'adresse aussi aux autres personnes présentes, Rhône Tourisme, à la personne de Camille Nernoux et puis Destination Beaujolais avec sa directrice de développement, Nelly Noyi. C'est un projet, par exemple, la voie du Taco, qui à la fois reprend une partie de l'histoire et en même temps, on en fait tout à fait autre chose. On transforme ce qui fut à un moment l'histoire, en tout cas ce qui a participé à l'histoire du territoire.
Aujourd'hui, on a un cordon ombilical qui traverse une grande partie du Beaujolais. C'est près de presque, on va dire, une centaine de kilomètres, avec une gare centrale qui était à Villefranche-sur-Saône, et donc une ligne qui montait sur Beaujeu et qui continuait bien au-delà, une autre ligne qui allait sur Tarare. Et aujourd'hui, de nombreuses communes, dont Ville-sur-Jarnoux, possèdent soit une ancienne gare, soit une ancienne structure qui rappelle ces ouvrages. Qui était le lien entre les zones rurales et les zones urbaines. Aujourd'hui, effectivement, les modes de transport ont changé et sont de nouveau en pleine révolution, puisqu'on parle de mobilité douce. Mmh. Et cette voie qui traverse donc toute partie du département offre plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rénové, il pourrait offrir un axe touristique qui traverse le département, qui pourrait, et c'est aussi notre souhait, rejoindre la voie bleue, de manière à offrir une porte d'entrée nord et sud, et également centrale, aux touristes qui viennent de longues distances et qui sont aussi des vecteurs d'économie.
Mmh. Parce que le cyclotourisme se développe de plus en plus.
Tout à fait.
Effectivement, chaque région, chaque micro-région qui va être reliée à cette voie bleue, ça va être un chemin de traverse potentiel, mais dans de bonnes conditions pour les cyclotouristes, et de venir découvrir une petite région et puis de reprendre après la route.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, la voie bleue propose différents circuits alternatifs et aujourd'hui, la voie du Taco pourrait être un circuit alternatif parfait pour donc faire découvrir notre région. Et ça s'articule également donc sur les mobilités douces, puisqu'aujourd'hui, cet axe qui était emprunté par le vieux Taco avait besoin d'une topographie douce. Donc du coup, ça pourrait permettre aux travailleurs et aux modes actifs de pouvoir se déplacer d'une commune à l'autre pour pouvoir rejoindre les centralités, donc Belleville, Villefranche, Ans, et éventuellement d'autres plus petites centralités. On a également la possibilité d'y ajouter le loisir famille et également le sport nature tout au long de cet axe. Donc c'est vraiment un sujet majeur qui regroupe tout un tas de points. Et ça peut également être le point central pour ouvrir des ramifications après sur d'autres tracés pour encore ouvrir d'autres opportunités.
Alors au niveau du pilotage, qui est au pilotage de ce projet ?
Alors je dirais c'est un petit peu tout le monde, dans le sens où il y avait quand même une volonté à la base de pratiquement toutes les communes, parce que chaque commune traversée par cet axe demande depuis de nombreuses années à ce qu'il se fasse quelque chose.
Alors, mais il fallait s'entendre
et après il ne faut pas que ça devienne l'arlésienne non plus, et en même temps il ne faut pas que chacun fasse son petit truc dans son coin en se disant il faut qu'on bouge. Donc on a articulé depuis le début du mandat un projet en se disant il faut qu'on avance au niveau de l'agglomération, et en s'entendant avec les élus des EPCI voisines, on s'est rendu compte qu'eux aussi œuvraient sur ce secteur avec leur commune. Et après, le département aujourd'hui qui entend ces EPCI, donc on monte en puissance, entend le besoin donc de ces communes, des EPCI, et du coup va être un petit peu le maître d'orchestre. Et c'est une bonne chose du coup que tout le monde puisse travailler ensemble, que tout le monde puisse amener sa pierre à l'édifice, sa vision technique, sa connaissance du territoire, et également, il faut le dire, la partie économique.
En tout cas, moi, j'ai hâte de prendre mon vélo et d'aller me balader en sifflotant sur cette voie du Taco.
Eh bien, écoutez, j'espère vous y croiser, et d'autant plus à Ville-sur-Jarnoux.
Avec plaisir. Nelly Noyi, vous êtes donc directrice développement de Destination Beaujolais. Et comme vient de l'expliquer Gaëtan Lièvre, Destination Beaujolais travaille avec trois EPCI, donc qui sont celles de Villefranche-Saône-Beaujolais, celles des Pierres Dorées et celles, donc c'est Beaujolais...
C'est communauté de communes Saône-Beaujolais.
Saône-Beaujolais, voilà, qui regroupe Belleville, Beaujeu, enfin tout le Haut-Beaujolais, on va dire, voilà. Et du coup, alors, en tant qu'organisme à vocation touristique, en tout cas, un office de tourisme, comment on travaille avec trois EPCI différents en même temps ? Est-ce que, du coup, on doit mettre... tout le monde essayer de que tout le monde se cale sur le même rythme, sur le même tempo, ou alors c'est on fait avec les tempos chacun et on s'adapte. Comment ça se passe?
Alors, donc je rappelle effectivement qu'on est installé sur 3 EPCI, donc ça représente 85 communes. Mmh. C'est notre territoire de compétence, notre territoire d'action. Et nous avons, et comme en parlait Monsieur Lièvre à l'instant, identifié nos filières stratégiques. Donc, bien sûr, le no-tourisme, hein, qui est vraiment une filière identitaire. Hein,
ça, c'est un axe très important.
Un axe très important qui consiste à valoriser toutes les activités œno du territoire, valoriser la route des vins, valoriser aussi un label que l'on a sur le territoire, qui est le label Vignoble et Découverte. Mmh. Ça, c'est la première filière sur laquelle on travaille. Ensuite, on a parlé donc, de la voie du taco, mais pour moi, ça fait référence à une thématique beaucoup plus large, qui est celle des activités de pleine nature, de ce qu'on peut appeler l'outdoor, de l'itinérance. Donc, on a effectivement différentes formes de pratiques sur le territoire. Et puis, on a également la valorisation du patrimoine et de la culture, parce qu'on a le label UNESCO Géoparc. On a, pour une partie du territoire, le label Pays d'art et d'histoire. On a des labels un peu plus spécifiques le label Plus beau village de France, Petite cité de caractère ou encore Station verte. Et donc, c'est notre rôle de pouvoir valoriser en fait ce riche patrimoine à travers différentes actions de médiation sur le territoire. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a identifié ces filières stratégiques et des filières un peu plus spécifiques, hein, donc on travaille aussi sur la thématique du tourisme d'affaires parce qu'on a différentes structures qui sont à même aujourd'hui d'accueillir des séminaires d'entreprise.
C'est le cas du lieu où on est aujourd'hui,
exactement.
Par exemple.
Exactement. Le tourisme fluvial aussi est un sujet qu'on sur lequel on travaille. Et donc, une fois que ces sujets sont bien identifiés, on les porte avec les 3 EPCI et donc on définit ensemble une feuille de route. Hein, ça se passe comme ça pour l'Office de tourisme.
Quand on est directrice développement, quand on entend le mot développement, on imagine qu'il y a un œil qui regarde ce qui se passe maintenant, puis un œil qui regarde déjà un peu sur le futur, qui essaie d'anticiper ce que va être la demande dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, pour se préparer et pas louper certains coches, parce que parfois ça peut faire mal de louper le coche.
Oui, puis le tourisme évolue surtout ces derniers temps, avec de nouvelles attentes, de nouvelles tendances. Donc effectivement, alors on s'appuie beaucoup de ce qui se passe sur le terrain aussi. Le développement est très lié à l'accueil. L'accueil, c'est ce qui est le plus visible dans notre métier d'office de tourisme. C'est la partie visible de l'iceberg. Après, il y a un vrai travail justement de développement, de communication, de promotion, de valorisation. Mais effectivement, on s'appuie de ce qui se passe sur le terrain pour comprendre les attentes de nos clientèles. Les tendances, c'est effectivement être très agile pour proposer de nouvelles actions.
Est-ce que vous avez des actions sur le développement de la professionnalisation des différents acteurs qui œuvrent dans le tourisme?
On a effectivement des actions pour les accompagner. Alors, sur différents sujets, c'est de l'accompagnement sur justement la connaissance des clientèles, des attentes de ces clientèles, aussi au niveau de la communication, de la promotion. On va jusqu'à animer des ateliers aussi de travail. Donc, effectivement, ça fait partie de nos principales missions que d'accompagner, de les aider, de leur donner des outils aussi. Et on est très à l'écoute de leurs attentes.
Aujourd'hui, il y a une attente qui est importante, on en parle de plus en plus, c'est le développement durable. Et donc, Camille Lernoux, au sein de Rhône Tourisme, eh bien, vous êtes responsable tourisme durable. Est-ce que l'on peut préciser ce que l'on entend à travers ces termes tourisme durable? Parce qu'on pourrait dire que c'est le tourisme qui dure longtemps.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu un mot qu'on emploie de plus en plus, parce qu'en effet, il y a une réalité derrière. C'est vrai que ça peut être aussi un mot fourre-tout. On se dit qu'on réinvente le tourisme en quelque sorte. On prend les mêmes et on recommence et on change le nom. Mais ce n'est pas ça qu'on fait au niveau de Rhône Tourisme. C'est vrai que nous, on a un positionnement qui est nouveau, avec une structure qui a décidé de faire des acteurs du territoire des partenaires du quotidien. Et donc, ça, en matière de tourisme durable, je trouve que c'est déjà une première approche qui change la donne, c'est-à-dire qu'on a des façons d'approcher le territoire et les projets avec des méthodes de concertation, avec l'écoute de chacun. Et je pense que c'est déjà une première étape pour pouvoir envisager une durabilité des projets, c'est-à-dire de pouvoir répondre aux attentes de tous.
Durable, ça veut dire aussi préserver ce qui est la ressource touristique. Et sur ce territoire, la ressource touristique, c'est beaucoup la nature. Exactement. Qu'elle soit, que ce soit la nature qui soit guidée dans la viticulture, en tout cas, mais c'est la nature qui produit quand même le vin, ou que ce soit les paysages, c'est quelque chose à préserver pour pouvoir justement que l'offre touristique puisse durer longtemps sans mettre en danger l'environnement.
Oui, alors tout à fait. Donc ça fait partie des grands axes que nous, on a aussi au niveau de Rhône Tourisme, de pouvoir accompagner cette fois-ci les communes. Donc c'est à cette échelle-là qu'on intervient. On a notre partenariat avec le CAUE, le Conseil d'architecture, urbanisme et environnement, avec qui on travaille régulièrement sur justement des formations sur le cadre de vie, sur les enjeux paysagers, sur la maîtrise des ressources naturelles. Ce qui nous permet en réalité de traiter la question des aménagements dans l'espace public et donc l'accueil des visiteurs en intégrant en fait toutes ces réflexions, ces problématiques de gestion environnementale. Donc comme vous le disiez, on a des ressources naturelles qui font la richesse du territoire, les paysages et puis cette nature qui est importante de préserver avec des milieux et des biotopes qui sont vraiment la richesse et l'identité de ce territoire. Et, les mettre en tourisme, c'est toujours prendre le risque de les dégrader. Mmh. Donc effectivement, développer du tourisme aujourd'hui, c'est prendre la notion aussi de ces risques et puis de contrôler les flux, d'anticiper toutes ces problématiques.
On voit sur certains lieux, alors ce n'est pas le cas encore dans le Rhône, mais dans certains lieux où il y a la question qui se pose de limiter l'accès à certains lieux pour les préserver, de mettre, c'est le cas par exemple en Corse avec le GR20, et de demander, ou alors dans des refuges ou sur le Mont Blanc, de demander aux gens de s'inscrire et de limiter le nombre de personnes qui peuvent passer, parce que c'est la pérennité des sites qui sont en jeu et de l'écosystème.
Ben, c'est vrai que le phénomène de piétinement en milieu naturel, on voit les milieux se dégrader très vite, surtout quand c'est des milieux sensibles. Je peux donner un exemple. Le département du Rhône a déployé la forêt des expériences sur le massif de la Cantinière. Donc, c'est un sentier de randonnée avec un parcours artistique. On l'a inauguré en sortie de confinement et le bouche à oreille a suffi à ce que ce lieu soit surfréquenté. Mmh. Donc on s'est retrouvé avec effectivement des parkings qui étaient saturés, avec des lieux qui ont pu être par moments un peu dégradés. C'est vrai qu'en tant que responsable de tourisme, la décision à prendre, c'est d'arrêter de communiquer pour se laisser le temps aussi d'avoir une réponse du milieu, de ne pas se retrouver avec des conséquences irréversibles, en tout cas.
Oui, puisqu'on on envisage des choses, mais quand on envisage, c'est toujours de la projection. Et parfois, la réalité, elle vient toujours... même si on fait de très bonnes projections, ça vient toujours avoir se confronter à la réalité qui peut être différente.
C'est ce que je dis souvent, c'est que nous, on fait beaucoup d'ingénierie au niveau de Rhône Tourisme. Et donc, on est très... très alerté en réalité sur les prospectives qui existent sur le territoire, et la question de l'eau est cruciale aujourd'hui, notamment l'été, notamment sur l'activité touristique qui est très consommatrice. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut penser du tourisme sans eau, et ça, ça vient tout bousculer, ça vient vraiment changer la donne, et ça nous invite à innover encore et à trouver des solutions plus pertinentes. Ouais.
Merci Camille Lernoux d'avoir abordé ces questions avec nous. Merci aussi à Nelly Noyy, directrice développement de Destination Beaujolais. Et merci à Gaëtan Lièvre, maire de Ville-sur-Jarnoux et vice-président au tourisme à la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône.
Merci à vous.
Merci.
On continue en musique sur Calade avec Mylan Easy.
She was about to, she was feeling was not sure about it. She had all of an angel, driven by his unbelievable great mind. The master lost control and made a fool out of me. Thought about all the girls playing around me, feeling like flowers. Then decided not to care, cause I was up to play with girlies, and I was up to share my candies. It's all I got. You made me happy. Cause I was up to play with girlies, and I was up to share my candies. It's all I got. Easy. Cause I was up to play with girlies, and I was up to share my candies. It's all I got. Easy. Cause I woke up this morning happy. You know I could take away from me the joy and love. Easy. Cause I woke up this morning.
C'était Billy Preston sur Calade avec Nothing for Nothing. Toujours en direct depuis le château des Ravatis à Saint-Lagé, dans le cadre des instants T du tourisme organisé par l'organisme Rhône Tourisme. Et nous accueillons justement deux représentants, alors à la fois de Rhône Tourisme et à la fois du département du Rhône, en la personne d'Adrien Babade. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes référent Sentier du Rhône.
Tout à fait.
Vous avez un beau métier, vous aussi.
Oui, c'est un métier sympa, oui, tout à fait. Ouais.
Et puis, on accueille à nouveau aussi Corinne Brassard, donc de Rhône Tourisme, mais cette fois-ci pour nous parler du label Accueil Vélo. Rebonjour.
Rebonjour.
Chef de service, vous êtes référent, pardon, Sentier du Rhône. Alors, les Sentiers du Rhône, eh bien, ça nous fait penser à week-end, ça nous fait penser à balade, à randonnée. Mmh. Mais pas que avec les chaussures, en fait, c'est aussi avec des roues, il y a plusieurs choses. Expliquez-nous, Adrien Babade.
Alors peut-être vous décrire en quelques mots déjà dans quelle politique on s'inscrit au niveau du département du Rhône.
Bien sûr, oui.
Donc c'est une politique en fait assez active qui a été mise en œuvre par le président Guy Otto et par notre vice-présidente Béatrice Berthoux en charge des sports, qui vise à valoriser, on va dire, le sport en nature sur le département du Rhône, qui est un territoire qui s'y prête plutôt bien, en fait, qui est un territoire qui n'est pas très vaste, mais qui est assez diversifié en termes de paysages, de patrimoine, de culture, de différents types de cultures à trouver. Et c'est par la pratique sportive, en fait, qu'on peut... C'est l'approche sportive, on va dire, pour la découverte de ce territoire qu'on essaye de mettre en valeur de notre
côté. Comme ça, sans regarder vos fiches, vous avez une idée de ce que représente le réseau en termes de kilomètres ?
Alors oui, tout à fait. Donc nous, moi, j'interviens au niveau du PDIPR, donc le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Et c'est environ 4000 kilomètres, à peu près, de sentiers qui sont classés sur l'ensemble du territoire. Et à peu près autant de mobilier, du coup, qu'on peut trouver sur le...
On peut faire Compostelle sans quitter le Rhône.
C'est ça. C'est relié, effectivement, aux grands itinéraires, qu'on appelle, que certains connaissent peut-être, les itinéraires de grandes randonnées et grandes randonnées de pays. On est également traversé par un certain nombre de grands itinéraires. Et c'est vraiment un réseau qui est dense, qui permet aux Rhodaniens, mais également au public extérieur, aux touristes, de venir découvrir ce territoire par la pratique sportive.
Alors, quand on n'est pas un spécialiste des sentiers, je vais dire ça comme ça, souvent, on a du mal un peu à faire la différence entre la promenade, la balade, la randonnée. Et quand on veut, même si on a des très bons guides, là, comme celui qu'on a présenté tout à l'heure, à pied sur les chemins du Rhône, un carnet de randonnée, on ne sait pas si on s'embarque, et notamment si on a des enfants pas très grands, on ne sait pas si on s'embarque sur un truc facile ou sur un truc où on va tirer la langue. Et j'ai envie de dire, quand on est sportif aussi et qu'on a envie quand même un petit peu d'y aller, si on doit se retrouver sur quelque chose où ça ressemble à une promenade, quoi.
C'est ça. Alors, en fait, on a un
comment on fait la différence entre tout ça?
Eh ben, en fait, la chance qu'on a, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un territoire qui est assez varié. Donc, depuis le Val de Saône, les plaines et également les coteaux, qu'on trouve autant les coteaux du Beaujolais que du Lyonnais et également le Pays Mornantais, on a vraiment une grosse diversité en termes de dénivelé, de relief et de parcours. Et le gros avantage du réseau, c'est que c'est un réseau qui est suffisamment dense pour pouvoir projeter soit des promenades pour le dimanche en famille, des petites balades, et autant que pour un randonneur un peu plus aguerri qui peut tout à fait imaginer une randonnée d'une grande journée, voire de l'itinérance également, sur plusieurs jours.
Alors, sans redévelopper le sujet, mais on rappelle aussi que si on a du mal à traîner les ados, il y a tout le dispositif de géocaching avec les Newlus qui permettent là aussi, du coup, de rajouter de l'intérêt sur ces circuits déjà existants. Mais on en a déjà bien parlé, donc on ne va pas revenir dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Et alors là, on parle plutôt de randonnée pédestre. Il y a aussi toute la dimension vélo qui est développée sur le département du Rhône.
Tout à fait. Ouais. Nous, au service sport, donc le PDIPR a été rattaché au service sport du fait de l'approche, on va dire, activité physique et sportive. Et du coup, au sein du département, on développe également d'autres produits phares. Donc on intervient donc dans la randonnée pédestre, mais également dans le vélo sur route. On a plusieurs boucles de cyclo-randonnées qui maillent tout le territoire également. On a 29 boucles sur environ 1200 km qui maillent tout le territoire, qui sont jalonnées sur le terrain avec des panneaux. Et on a également du VTT avec deux grands parcours emblématiques qui font 230 km pour la grande traversée du Rhône et 180 km pour le grand tour des Monts du Lyonnais, qui permettent aux VTTistes les plus chevronnés de partir en itinérance sur plusieurs jours. On a un relief qui est assez important parce que la grande traversée du Rhône, c'est 7000 mètres de dénivelé positif, donc il y a de quoi se faire faire plaisir. Et on peut tout à fait...
Il faut
pour
un peu d'entraînement, on ne sort pas directement chez Decathlon avec son vélo.
Non, c'est plutôt pour des vététistes qui sont plutôt confirmés, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, on a plusieurs segments. En fait, hein. L'itinéraire est suffisamment long pour pouvoir en pratiquer des plus petits segments et apprendre à connaître le territoire par ces deux parcours.
Ah, si vous permettez, Adrien Baban, on va en profiter parce que vous dites une grande traversée sur plusieurs jours. Mmh. Et justement, quand on part sur plusieurs jours et qu'on part en VTT, c'est rare qu'on parte avec les sacoches, avec la tente.
Alors ça arrive, il y en a qui sont amateurs.
Peut-être
de...
sur les routes, mais pas, je ne pense pas sur les chemins en tout cas, où parfois ça secoue. Mmh. Et il y a ce label Accueil Vélo qui se développe aussi au sein du département, Corinne Brassard, pour organiser et adapter des hébergements spécifiquement à des personnes qui sont en transit ou qui réalisent un séjour en vélo sur le territoire du département du Rhône.
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il existe déjà, en fait, Gîtes-de-France avait créé une thématique pour les hébergeurs qui accueillent déjà des cyclistes. Hein. C'est quelque chose qui se fait, bien sûr, depuis très, très, très longtemps. Donc, ce qu'on appelle accueil cycliste, voilà. Et c'est vrai qu'il existe en France, et là, c'est intéressant, une marque qui s'appelle Accueil Vélo. Elle est unique en France, c'est-à-dire qu'elle est bien connue, en fait, des gens qui partent en itinérance à vélo, parce qu'elle est vraiment faite pour ces personnes-là. Et puis même au niveau européen, c'est quelque chose qui est assez connu. Les Allemands, en fait, connaissent cette marque, d'où l'intérêt qu'elle soit unique. Et comme ça, il n'y a pas plusieurs produits qui vendent la même chose. Mmh. Donc en fait, l'intérêt surtout de cette marque, c'est de savoir pour le cyclotouriste qui part souvent d'ailleurs, c'est des gens maintenant qui partent beaucoup à vélo à assistance électrique. Mmh. Donc c'est souvent du matériel qui coûte cher. C'est pouvoir quand même déjà dans un premier temps assurer à la personne qui part avec son vélo, en fait, de pouvoir mettre son vélo dans un endroit sec et en sécurité. Voilà. Et puis également, pour ceux qui sont sur des vélos à assistance électrique, la possibilité également de les recharger.
Bien sûr, oui.
Alors là, on en est au tout début du déploiement de la marque aujourd'hui. Ça concerne l'ensemble du département du Rhône. On débute. Et l'idée, effectivement, ça s'adresse à des professionnels du tourisme au sens large. Donc il y a évidemment les hébergeurs qui sont concernés. Ça va de l'hôtel au camping. Mais on peut aussi être restaurateur et souhaiter accueillir une clientèle vélo. Parce que c'est vrai que quand on voyage à vélo, on ne peut pas emporter... de quoi cuisiner. Donc
et puis ça n'empêche pas d'être sportif et en même temps d'aimer la bonne chair et de s'arrêter dans un établissement où on mange bien.
Exactement. Et c'est vrai que tous les professionnels du tourisme peuvent être concernés parce que quelqu'un qui pratique le cyclotourisme, c'est aussi quelqu'un qui va peut-être avoir une approche culturelle, donc qui voudra découvrir également un musée ou tout autre site qui a un intérêt patrimonial. Donc en fait, c'est pouvoir proposer à l'ensemble de ces professionnels du tourisme d'assurer à partir d'un cahier des charges qui est relativement simple, hein, voilà, de quoi accueillir en fait les touristes à vélo pour que ces personnes puissent mettre leur matériel en sécurité pour pouvoir profiter tranquillement d'une activité, d'un loisir, d'une visite.
Est-ce qu'on a une idée un peu précise de l'augmentation? Parce qu'on constate, je pense, sur les routes, l'augmentation des praticiens et praticiennes de cyclotourisme. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente chaque année comme évolution dans les habitudes de tourisme?
Les chiffres qui paraissent, qui sont édités à l'échelle nationale par des organismes spécialisés sur le sujet montrent bien qu'il y a une progression. Et nous, ce qui touche vraiment le tourisme, Adrien me rejoindra sans doute, c'est vraiment l'importance du vélo à assistance électrique qui permet de démocratiser la pratique. Et c'est vrai que, pour tout vous dire, en fait, ce label est né en centre-Val de Loire. En fait, il y avait énormément d'itinérance à vélo. Et voilà, c'est des gens qui partent sur plusieurs jours en famille. Et il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui partent comme ça. Voilà, les chiffres nationaux le montrent, quoi qu'il en soit. Voilà, donc en fait, quand on veut utiliser ce label, c'est soit on est à proximité, effectivement, d'une voie verte ou d'une véloroute comme la Via Rhôna ou comme la Voie Bleue, par exemple, là dans le Beaujolais, le long de la grande traversée du Rhône à VTT, mais aussi on peut être à côté d'itinéraires cyclotouristiques, vélo de route, que les gens, effectivement, peuvent pratiquer sur plusieurs jours. Ils s'appuient sur un réseau.
C'était déjà historiquement, depuis des siècles, sur le commerce, le Rhône a une place centrale et une place de carrefour, on le sait. Hein. Et du coup, maintenant, c'est toujours une place centrale et une place de carrefour au niveau européen pour le cyclotourisme aussi.
Oui, tout à fait. Surtout que après, c'est des connexions vers
Alors,
Lyon.
J'ai envie de vous demander, entre nous, dans l'accueil aussi des personnes étrangères, sur la capacité à s'exprimer en langue étrangère, toutes ces choses-là, c'est des choses aussi à développer, j'imagine, auprès des accueillants, des restaurants, toute cette dimension-là de maîtrise des langues étrangères.
Bah, l'anglais, c'est vraiment la base. Et c'est vrai qu'on a eu formé, on a créé des formations il y a quelques années en arrière, et il existe sur certains de nos territoires touristiques des formations à l'anglais touristique. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est déployé aussi un petit peu. Effectivement, dans le Beaujolais, il y a beaucoup de gens qui ont suivi ces formations pour pouvoir effectivement accueillir les gens dans leur langue d'origine.
Adrien Mabad, est-ce qu'on va dire que le réseau est déjà complet de ce que peut supporter le Rhône en termes de chemin pédestre et de chemin de randonnée cycliste? Ou est-ce qu'il y a encore de nouvelles voies, de nouveaux chemins à développer?
Il est déjà bien dense, il est assez développé. Au niveau VTT, je pense qu'on est déjà assez complet. En boucle cyclotouristique, nous travaillons juste... Il y a une petite zone blanche qui existe sur un secteur qui est très intéressant et sur lequel on est en train de travailler, c'est le Beaujolais des Pierres Dorées, où il y aura 4 boucles complémentaires qui vont être créées sur ce secteur pour compléter le maillage. Et à ce moment-là, on aura un maillage qui sera
suffisant. Et des VTTistes, ils aiment bien des bonnes descentes qui font bien peur, non? Est-ce que ça, on a des choses comme ça sur notre...
Ça, on a, ouais, tout à fait. Ouais. Clairement, sur les deux parcours en itinérance, on les a. On a aussi sur les territoires des boucles plus petites à la journée qui se développent. Je pense au secteur du Mont du Lyonnais, du Pays de l'Arve.
C'est vrai qu'il y a la chance d'avoir quand même des vallons, des montagnes, des choses qui permettent quand même de développer... Enfin, qu'on aime la descente, qu'on aime se faire mal en montée ou qu'on aime plutôt le plat, il y a de quoi faire.
Tout à fait, ouais. On a toute la variété, en fait, depuis l'axe, on va dire, constitué par la Saône, en montant jusque la ligne de crête, on a toute la diversité en termes de relief qui nous permet, qui est propice, en fait, à cette activité, à la fois au VTT, mais également aux pratiques déclinées, on va dire, de la randonnée, le trail également, la course à pied et d'autres pratiques.
Bon, je ne veux pas vous mettre en indélicatesse, parce que vous devez normalement être neutre. Mais est-ce que quand même, vous qui avez sillonné quand même la plupart de ce réseau, est-ce qu'il y a un petit coup de cœur à faire à pied, un petit coup de cœur à faire en vélo que vous pourriez partager? Et on prévient tout de suite, c'est totalement subjectif, c'est votre coup de cœur à vous.
Moi, il y a une part subjective parce que je suis né dans le Beaujolais, donc je suis du Beaujolais, donc c'est le territoire que je connais le mieux, le Beaujolais viticole. Donc j'ai envie de dire tout ce qui est autour du Mont Brouilly, autour de la ligne de crête vers Saint-Étienne-la-Varenne, les landes du Beaujolais, c'est vraiment des secteurs qui sont vraiment sympas et qui permettent de se situer entre les deux vallées et vraiment qui sont très agréables.
Bon, on retiendra cette proposition tout à fait subjective, sachant qu'il y a de très belles randonnées à faire, que ce soit à pied ou à vélo, sur tout le territoire du département.
Exactement, tout à fait.
Je rappelle à toute fin utile, parce que c'est vraiment un bel objet, et puis ça peut donner beaucoup d'idées, de balades, de sorties. C'est ce guide qui s'appelle « À pied sur les chemins du Rhône », ça commence presque comme un haïku, et puis c'est pour goûter la poésie des paysages, on va dire, du département. C'est un carnet de randonnée avec 40 circuits de trail, promenades, marches nordiques. Enfin, on y retrouve toute une diversité. Si on a envie d'avoir accès à ce joli carnet, comment on peut faire, Corinne Brassard?
Alors, il est disponible gratuitement dans les offices de tourisme du département du Rhône. Et je tiens à préciser par rapport à ce carnet, en fait, que c'est une vitrine de la randonnée dans le Rhône. C'est-à-dire que tous les circuits que vous trouvez à l'intérieur, les 40, ce n'est jamais qu'une infime quantité de ce qui existe.
Oui, on a bien compris, parce qu'il y a plus de 4000 kilomètres.
Voilà, c'est des extractions en fait de ce qui est déjà existant, et ça permet aux gens, quand ils utilisent ce guide, de voir qu'en fait, il y a un cartoguide sur un secteur. Quand on a aimé le secteur, on sait qu'il y a un cartoguide qui existe. Si on a aimé une itinérance, derrière, il y a également un topo guide qui vous emmène sur l'itinérance. Voilà, on est vraiment sur un produit d'appel, comme on dit.
Merci beaucoup à vous, Corinne Brassard. Je rappelle que vous travaillez pour Rhône Tourisme. Et puis merci à vous aussi, Adrien Mabad. Vous êtes référent santé du Rhône au département du Rhône. Merci à Rhône Tourisme de nous avoir accueillis pour cette journée instantée du tourisme qui se tient aujourd'hui au château des Ravatis à Saint-Lagé. Une belle journée dans un bel endroit, et ça a commencé sous une pluie intense, et regardez, le château commence à accueillir le soleil, alors on est bien. Et on va terminer en beauté. Merci à Mathieu Roir qui a réalisé les 3 émissions aujourd'hui en direct du château. Restez à l'écoute de Calade, et vous retrouverez ces émissions en réécoute et en podcast sur le site www.radio-calade.fr d'ici la fin de la semaine.
Vibration Calade.